France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je vous dis Lucie de Lamermoor, la fille du régiment ou la favorite, vous pensez à Donizetti. Ses opéras, souvent à l'affiche des scènes internationales, entretiennent la notoriété d'un compositeur qui, comme ses compatriotes Rossini et Bellini, était venu chercher la gloire à Paris. C'est d'ailleurs à Paris que furent créés ces trois titres à la fin des années 1830. Comment le compositeur réussit-il à s'introduire dans le milieu musical, à se faire connaître, à recevoir des commandes? Comment fut-il reçu par le public et par la presse? Pour cerner la carrière d'un compositeur qui devint indispensable à la vie lyrique parisienne, j'ai le plaisir de recevoir Stella Rollet, qui vient d'y consacrer un travail remarquable et nous fait revivre la vie musicale d'alors. Donizetti et la France, 1831-1897, carrière, création, réception aux éditions Classique Garnier. L'orchestre de l'Opéra National du Pays de Galles, dirigé par Richard Bonynge, c'était un extrait de l'ouverture d'Anna Bolena de Gaetano Donizetti. Bonjour Stella Rollet.
Bonjour à vous.
Vous êtes docteur en histoire et enseignante, et donc l'auteur de cette étude sur Donizetti et la France. Alors deux dates, 1831 et 1897. 1831, c'est la date à laquelle a été donné à Paris le premier, pour la première fois, un opéra de Donizetti, en l'occurrence.
Tout à fait.
Voilà, Anna Bolena. Et 1897.
Ça correspond au centenaire de sa naissance, en fait.
Donc, il était né en 1797 à Bergame. Alors, votre étude s'attache à suivre la carrière de ce compositeur qui vient à Paris, je l'ai dit, pour chercher la gloire. Mm-hmm. À l'époque, si on voulait se faire un nom, il fallait absolument venir à Paris.
Ah oui, tout à fait. Pour tous les compositeurs, qu'ils soient italiens ou allemands, l'Eldorado, c'est Paris. C'est pas forcément une ville qui marque par ses propres compositeurs, mais par la présence, un véritable cosmopolitisme de présence d'artistes, pas seulement de musiciens d'ailleurs, mais aussi des interprètes, que ce soit des chanteurs ou des musiciens.
Et aussi les moyens, parce que vous rappelez qu'il y avait à l'époque 8 théâtres subventionnés,
oui,
dont les trois principaux, l'opéra, l'opéra comique et le théâtre italien, réunissent plus de 4000 places.
Oui, tout à fait. Les trois que vous avez cités sont les trois principaux théâtres musicaux à Paris, et donc ceux sur lesquels les compositeurs souhaitent être présents. Mmh. Même si, selon les époques, on a d'autres théâtres qui ont été ouverts ponctuellement. Je pense au Théâtre de la Renaissance, qui a duré entre 1838 et 1840, ou plus tard, le Théâtre Lyrique, à partir de 1851. Mais les trois théâtres piliers, véritablement, de la vie musicale parisienne, ce sont les trois que vous avez cités, effectivement.
Donc Anna Bolena 1831, mais Donizetti n'est pas à Paris au moment où
non,
le...
Non, du tout. En fait, c'est Giuditta Pasta qui fait ses débuts au théâtre italien et qui, en tant que chanteuse, tout à fait, oui, et qui apporte avec elle la partition. C'était de tradition que les interprètes viennent avec une pour faire leur début dans une partition qu'ils connaissent bien et dans lesquelles ils sont sûrs, dans laquelle pardon, ils sont sûrs de pouvoir briller.
Et donc cette première d'Anna Bolena a été donnée au théâtre italien.
Au théâtre italien, le 1er septembre 1831. Oui,
donc c'était un théâtre qui était spécialisé, comme son nom l'indique, dans le répertoire italien.
Oui.
Mais ce n'était pas un théâtre de création à la base.
Non, c'est essentiellement un théâtre d'importation, on pourrait dire, puisque la plupart des œuvres qui sont jouées au théâtre italien ont d'abord été créées en Italie. Et donc ensuite, les directeurs du théâtre italien font un petit peu leur marché pendant l'été en Italie pour aller identifier des œuvres et aussi des interprètes pour leurs troupes. Et donc, c'est effectivement essentiellement un théâtre d'importation, même si certains ouvrages et à certaines périodes, on a effectivement des créations du théâtre italien, des commandes directes. Le moment justement où Donizetti arrive à Paris, en 1835, c'est à la suite de sa première commande parisienne, qui est une commande du théâtre italien et qui concerne Marino Faliero. Sarà tremenda, morte ovunque spargerà.
Un extrait du deuxième acte de Marino Faliero de Donizetti avec dans le rôle-titre Giorgio Surione, le chœur et l'orchestre du Festival Donizetti de Bergame dirigé par Bruno Cinque Grani. Stella Rollet, donc une création donc pour Paris spécifiquement,
oui,
donc une commande, donc,
oui, une commande.
Pour Donizetti donc à Paris 1835 je crois,
oui.
Donc au théâtre italien. Précédemment on a évoqué Anna Bolena 1831. Comment furent reçus ces deux titres?
Chacun d'entre eux a eu une réception très différente. C'est lié notamment au fait que Anna Bolena était déjà connue, en fait, quand elle est arrivée à Paris. Et on s'aperçoit que souvent, quand les œuvres arrivent à Paris avec un passé, elles sont reçues en fonction de ce passé. Et donc, comme Anna Bolena avait déjà eu beaucoup de succès en Italie, et en plus, l'interprète, je le disais tout à l'heure, Giuditta Pasta, était une figure importante, tout ça a favorisé la réussite de l'œuvre. D'autant que c'est considéré comme la première œuvre de la maturité de Donizetti, où vraiment sa propre manière de composer va s'imposer. Marino Faliero, c'est une autre histoire, parce que au moment de sa création, d'abord, l'œuvre n'a pas bénéficié d'un contexte très favorable.
Puisque c'est le sujet, non, l'histoire de ce doge vénitien qui finira
le sujet fonctionnait relativement bien. Par contre, le fait qu'il n'y ait qu'une seule interprète féminine entourée d'hommes, ça, c'était problématique. Mais cela dit, c'est pas forcément toujours un élément qui peut bloquer, puisque par exemple dans Lucie de la mère mort, la version française, Lucie est seule et ça l'a pas empêché d'avoir du succès. Donc ça peut entrer en ligne de compte. La même année, quelques mois plus tôt, il y a les Puritains de Bellini qui ont été créés et qui ont eu un immense succès quelques mois plus tôt. Et puis en plus, l'œuvre a été créée en fin de saison, puisque la saison du théâtre italien dure d'octobre à mars de l'année suivante, et Marino Faliero a été créé le 12 mars. Donc tous ces éléments-là contribuent. Et puis Donizetti ne maîtrise pas encore bien les codes de l'écriture, même s'il a été aidé pour terminer sa partition par Rossini, grâce à qui d'ailleurs il avait obtenu cette commande. Il a pu bénéficier de cette aide, mais malgré tout, il ne correspond pas encore tout à fait au canon. Et donc c'est une œuvre qui a été jouée quelques représentations pendant cette saison 1834-1835. Elle a été reprise en 1836 et plus jamais par la suite. Donc c'est considéré comme un échec dans la mesure où elle n'a pas duré, elle ne s'est pas imposée.
Et alors comment Donizetti a-t-il procédé pour justement s'introduire dans la vie musicale parisienne? Vous évoquez le nom de Rossini, mais il y a également les salons que vous évoquez, mais apparemment Bellini et Rossini les fréquentaient assidûment avec plaisir. Donizetti apparemment était un peu plus sauvage, un peu plus farouche, c'était pas dans son caractère.
Non, beaucoup plus farouche, effectivement. Il est conscient, au même titre que Rossini et Bellini, de l'importance que peuvent avoir les salons dans une carrière. Mais disons que pour lui, la part de contrainte l'emporte sur le bénéfice. C'est vrai, il le vit vraiment comme une contrainte. Il dit qu'il n'aime pas Paris. Alors, avant d'y venir, il est très enthousiaste, il a très envie de venir composer pour Paris. Il écrit même « Per pietà Parigi, 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 je veux Paris, je veux Paris ». Et puis, très rapidement, dès 1839, il dit à ses correspondants « Vous croyez que j'adore Paris, mais en fait, non, j'aime pas cette ville, je ne m'y sens pas bien, je ne rêve que d'une chose, c'est de rentrer à Naples ».
Donc en fait, c'était un passage obligé pour des raisons professionnelles.
Il est satisfait d'avoir cette réussite professionnelle. Il est satisfait aussi de sa présence sur les théâtres. Et puis, l'une des raisons qui fait son succès, justement, même s'il ne va pas dans les salons, c'est sa prolixité. Il travaille beaucoup, il est la providence des théâtres, parce que à cette époque-là, les directeurs de théâtre ont ce qu'on appelle un cahier des charges à respecter, et donc un certain nombre de créations à proposer. Alors c'est pas le cas au théâtre italien, mais par exemple l'opéra doit proposer 4 nouveautés par an, un grand opéra, un autre opéra de dimension plus réduite et 2 ballets. Et donc le directeur a des contraintes qu'il doit respecter
un
échéancier tout à fait à tenir, et il lui faut avoir les compositeurs à disposition. Notamment, Donizetti va suppléer à plusieurs reprises à Meyerbeer.
Qui tarde un peu à rendre ses partitions, si j'ai bien compris.
En particulier le prophète, puisque le livret du prophète lui est livré en 1838 et la partition n'est créée qu'en 1849. Donc le prophète, effectivement, a été un peu le messie de Donizetti d'une certaine façon, parce que il lui a permis d'avoir un certain nombre de contrats, mais des contrats qui très souvent sont subordonnés à la livraison ou non de la partition de Meyerbeer. Pour Don Sébastien de Portugal, par exemple, il est clairement indiqué sur le contrat que si Meyerbeer livre sa partition avant le 15 février 1843, alors le contrat avec Donizetti sera repoussé à plus tard et qu'il ne sera effectif immédiatement que si Meyerbeer effectivement ne donne pas signe de vie. Autre signe d'ailleurs de l'efficacité de Donizetti, puisque on est en train de parler d'un contrat qui a été signé en janvier 1843 pour une création en novembre 1943. C'est dire la confiance qu'on a dans la capacité de Donizetti à tenir son échéancier et à produire l'ouvrage dans les temps, contrairement à d'autres.
Mais est-ce que alors Donizetti n'est-il pas considéré comme un comme un pis-aller ou comme une sorte de roue de secours un peu.
Oui, oui, parfois, et c'est ça, tout à fait. Il y a même un certain nombre de directeurs, Duponchel en particulier, le premier qui va proposer à Donizetti de créer un ouvrage à l'opéra, dont Donizetti sait parfaitement qu'il ne l'aime pas, qu'il n'aime pas sa musique, et qu'il n'est qu'un pis-aller. Il en a parfaitement conscience. Par la suite, ce ne sera pas forcément la même chose avec Léon Pillet. Mais en tout cas, avec Duponchel, c'est certain, il est un pis-aller. Mais après le succès de La Favorite, les choses changent, forcément. Obligatoirement.
Et Selina Kasserova, Ramon Vargas, l'orchestre de la radio de Munich, dirigé par Marcello Viotti. C'était un extrait de La Favorite de Donizetti. C'est la relais La Favorite, donc un opéra commandé à Donizetti et créé à Paris, nous sommes bien d'accord.
Oui, tout à fait.
Donc ça fait partie des... Il y a eu 6 créations, 7 si on ajoute la traduction de Lucia en Lucie, en français.
Oui, tout à fait.
Pour une vingtaine d'œuvres, une vingtaine d'opéras joués de son vivant, j'entends.
Oui,
de façon posthume, c'est ça.
Il y a 19 créations précisément de son vivant. Mm-hmm. Et si on ajoute les créations posthumes, on arrive à un total de 25 sur les 70 opéras qu'il a écrits. Donc ça représente une masse importante, mais très très loin de l'ensemble de sa production.
Stella Rollet, comment Donizetti s'est-il rendu indispensable, je l'ai dit en introduction, à la vie musicale parisienne? Est-ce que c'est sa prolixité, sa rapidité? Est-ce qu'il avait aussi des rapports privilégiés avec les chanteurs, avec les interprètes?
Alors, sa prolixité joue un rôle fondamental, ça c'est certain. Ensuite, il y a aussi le fait qu'il est capable de tenir les délais, ce dont on a parlé tout à l'heure. Après, par rapport effectivement au contact qu'il a pu nouer à Paris, même si ce n'est pas un compositeur qui fréquente beaucoup les salons, on l'a dit tout à l'heure, il a des contacts importants qu'il va pouvoir nouer. Le premier qui lui a permis d'arriver en France, c'est Rossini. Mais par la suite, il va cultiver un certain nombre de contacts, notamment avec Paul Barwalet et avec Gilbert Dupré, qui sont l'un baryton, l'autre ténor, mais qui sont des interprètes phares de l'opéra et qui vont lui faciliter les choses parce qu'en fait, ils ont avant cela été ses interprètes en Italie. Notamment, Dupré a créé le rôle d'Edgar de Lucia dans la création en Italie en 1835. Donc, il va s'appuyer là-dessus. notamment pour les négociations avec l'Opéra de Paris pour son premier contrat, c'est Gilbert Dupré qui sert d'intermédiaire et qui va lui faciliter, qui va lui ouvrir les portes, qui va aussi organiser des dîners avec d'autres musiciens parisiens de manière à le faire connaître et à l'aider à s'imposer.
Stella Relais, il y a dans votre livre justement toute une étude sur le processus depuis la commande jusqu'aux répétitions. On en a vraiment l'impression d'y être. Parlons maintenant de la réception de la musique de Donizetti. Comme toutes les œuvres, certaines ont marché, d'autres un peu moins. Comment est-ce que, avec un siècle et demi de recul, on peut apprécier de façon, on espère, le plus juste possible, la réception d'une œuvre d'un musicien? Sur quoi se base-t-on? Sur la presse? Sur, je sais pas, certaines comptabilités? Sur
tous ces éléments-là, oui, c'est ça, tout à fait.
Comment avez-vous
procédé? Vous avez raison de dire que c'est difficile à apprécier parce que c'est un objet qui nous échappe un petit peu. Mais le point de vue que j'ai adopté et qui m'a permis justement d'essayer de m'approcher au plus près de la réalité, c'est de tenir compte de plusieurs facteurs. Le nombre de représentations, d'une part, donc par théâtre, par période, par œuvre, en comparant aussi avec d'autres compositeurs, ce qui permet de bien évaluer la place de Donizetti à telle ou telle époque.
Ce sont des sources auxquelles on peut accéder facilement?
Oui, alors pour l'Opéra de Paris, c'est plutôt aux Archives nationales. Pour les autres théâtres, il faut plutôt aller à la SACD ou à la Bibliothèque Musée de l'Opéra aussi, qui conserve une partie des sources. Mmh. Donc c'est des sources qu'on arrive à trouver de manière éparse, parfois incomplète. C'est la même chose pour les recettes, parce que ça aussi, ce que les représentations rapportent au théâtre, c'est un indice important, mais on est confronté à des difficultés de disponibilité des sources. Par exemple, pour le théâtre italien, les sources sont très partielles, alors que pour l'opéra, on peut vraiment suivre toute la période sans interruption. Et puis après, les sources sont plus ou moins détaillées, parce que par exemple, au théâtre italien comme à l'opéra, on a des abonnés. Et donc parfois, la recette tient compte des abonnés, et parfois, elle n'en tient pas compte. Et parfois, on ne nous précise pas si elle en tient compte ou pas. Donc ça crée un certain nombre de contraintes dont il faut tenir compte. Et puis évidemment, il y a la presse. Mais l'idée que j'ai poursuivie, c'était plutôt de faire vraiment une étude très quantitative. C'est-à-dire de voir un petit peu sur une œuvre donnée, d'essayer de balayer au maximum, on peut jamais être exhaustif, mais au maximum tous les articles disponibles sur telle ou telle œuvre, et donc de pouvoir, à partir de là, mesurer au plus près le point de vue qui est celui de la presse.
Sesto, Bruce Cantini, Mireille Lafreni, Leonucci, Gustav Winberg, l'orchestre Philharmonia, tous sous la direction de Riccardo Muti. C'était la fin du deuxième acte de Don Pasquale de Gaetano Donizetti, créé en 1843 au théâtre italien à Paris. C'est la relève. Vous évoquiez donc la réception dans la presse. Alors on sait qu'il y avait certaines oppositions, presque chauvines, par exemple, de la part de Berlioz.
Oui, Berlioz, alors il y a une opposition, certes chauvine, mais aussi professionnelle. C'est-à-dire que Donizetti rencontre des succès sur les différents théâtres qui suscitent forcément la jalousie de ses collègues et en particulier de Berlioz. Il a notamment écrit une critique assassine au moment de la création de La fille du régiment à l'Opéra Comique en février 1840 dans le journal des débats où il indique que Donizetti mène une véritable guerre d'invasion sur les théâtres parisiens puisqu'il a déjà été joué au théâtre italien, il vient d'être joué au théâtre de la Renaissance, une œuvre vient d'être créée à l'Opéra Comique et il en a une autre en préparation à l'Opéra. Donc effectivement, guerre d'invasion.
Mais donc, commentaire évidemment très subjectif. Oui. Est-ce que dans le reste de la presse, il y avait quand même des comptes rendus un peu plus objectifs?
Oui. Alors, tous ne sont pas objectifs. À la limite, c'est pratiquement dans la presse générale que l'on va trouver les commentaires les plus objectifs. Parce que la presse spécialisée a cette particularité que souvent un journal est associé à une maison d'édition. Donc si vous éditez la partition, elle est magnifique. Et si c'est votre concurrent qui l'édite, elle est médiocre, de toute évidence. Voilà. Donc il y a une façon, enfin le point de vue est un peu faussé en fait de la presse. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut balayer très large et avoir une grande quantité de journaux pour s'approcher au plus près. On s'aperçoit que globalement, si on essaye de voir les tendances, c'est-à-dire savoir si l'avis du critique est plutôt négatif ou plutôt mitigé ou plutôt positif, finalement, sur la masse, on se retrouve très rarement avec un chiffre d'avis positif inférieur à 50%. Globalement, la majorité est favorable.
Il y a d'ailleurs dans votre livre des tableaux des pourcentages.
C'est à celui-là que je pensais. Il y a une seule œuvre, voilà, où vraiment les commentaires sont assassins, c'est Les Martyrs. Donc la première création de Donizetti à l'opéra, mais pour tous les autres, on est toujours au-dessus des 50%. Par contre, on frise les 50% dans certains cas, et puis on atteint des 90-95% pour Lucia de la mer mort. Donc ça permet malgré tout de mesurer, évidemment le nombre d'articles va être important aussi, et puis il y a des journaux qui ont plus d'influence que d'autres, bien évidemment. Donc il y a tous ces éléments-là, à la fois qualitatifs et quantitatifs, à prendre en considération.
Ouais. Stella Rollet, en croisant toutes ces sources, ces chiffres, est-ce que vous avez peut-être rétabli certaines vérités sur la réception de Donizetti en France?
Oui, je pense. En particulier concernant Don Sébastien de Portugal, dont on considère que ça a été un échec.
Ouvrage rarement donné.
Rarement donné, mais c'est souvent le cas malheureusement pour les grands opéras. La Favorite dans ce domaine-là fait un petit peu exception
ouais.
Parce que justement elle exige moins de moyens. Mais c'est pas le sujet. Et donc, pour Don Sébastien de Portugal, on a l'habitude de dire que ça a été un échec total dès le départ. Une thèse qui est accréditée justement par un journal qui n'édite pas la partition. Mais en fait, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que la partition a eu au départ du succès et qu'ensuite, ce succès a décliné très rapidement. Les premières recettes sont exceptionnelles. Dans la première saison, il y a une trentaine de représentations. Donc, ça fonctionne très bien. Simplement, il y a des éléments notamment de contexte, en particulier la mort d'un prince d'Orléans quelques mois précédents qui ont empêché la réussite de cet ouvrage.
Très bien, merci beaucoup Stella Rollet. Je rappelle le titre de votre livre, Donizetti et la France, qui vient de paraître aux éditions Classiques Garnier. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Valérie Lavalard, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Gaëtan Puot pour évoquer Olivier Messiaen. D'ici là, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.